Alors, cette année à l'AN, moi j'ai retenu quelques points intéressants. Le premier, c'est sur les grossesses. On a eu des résultats de sécurité sur les immunomodulateurs, interférons et Copaxone. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas de problème pour la grossesse, mais là on a des résultats de registres importants qui viennent confirmer cela. Et également, sur le plan de l'allaitement, ce qui n'était pas complètement réglé avec la Copaxone, puisque c'est resté jusqu'à peu, c'était pas recommandé d'allaiter sous Copaxone, et maintenant c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Ça, c'est le premier point que j'ai trouvé assez intéressant. Il y a une deuxième communication que j'ai trouvée également intéressante sur les arrêts de traitement. Et en fait, c'est une étude qui s'est intéressée aux patients stables sous traitement en leur demandant est-ce que vous souhaiteriez arrêter le traitement du fait de la stabilité. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les patients, dans deux tiers des cas, sont pas favorables à un arrêt de traitement. Parce que ils sont en fait rassurés et ils constatent en fait la stabilité de la maladie sous traitement. Et donc en fait ils ne souhaitent pas arrêter le traitement. Ça va un peu contre les idées reçues. On a toujours tendance à se dire que les patients souhaitent interrompre le traitement. Autre chose intéressante avec l'émergence d'une réflexion autour du Tysabri pour faire des perfusions à un rythme moindre, une étude en fait a montré qu'effectivement, lorsque on augmentait l'intervalle de temps entre deux perfusions, on diminuait les taux de Tysabri dans le sang. Et ces taux de Tysabri, en fait, sont probablement associés au risque de LEMP. Et donc, on peut penser qu'on va réduire le risque de LEMP en augmentant l'intervalle de temps entre les perfusions. En sachant que ce ne sera sûrement pas zéro risque, puisque lors du congrès, il y a un dossier qui a été présenté d'un patient qui recevait du Tysabri toutes les 10 semaines et qui a fait une. Et puis dernier point, sur les facteurs de risque de passage en forme secondairement progressive, les auteurs en fait ont repris toutes les études du Fingolimod et le principal facteur en fait de passage en forme secondairement progressive, ce qui vient confirmer, on va dire, beaucoup d'études déjà publiées avec d'autres méthodologies, c'est l'absence de traitement. Et donc les traitements de fond protègent bien contre le risque de passage en forme secondairement progressive.